Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais bon, hein?
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Savez-vous creuser les mots? C'est un jeu amusant. Au cours de l'émission d'hier consacrée au tourisme en France, j'ai parlé des monts du Forez. Une auditrice a écrit pour me corriger. On dit forêt, pas Forez. J'ai donc rectifié à l'antenne. Mais ensuite, nous avons reçu d'autres messages qui me donnaient en partie raison. Les deux se disent, figurez-vous. Du côté de la Loire, on ne prononce pas le Z, mais côté Puy-de-Dôme, si. Alors je choisis mon camp, je persiste et je signe à la pointe de l'épée du Z qui termine Forez. C'est joli cette histoire de prononciation différente en fonction de là d'où on regarde la montagne. Ce simple nom de cinq lettres raconte un territoire, il raconte des habitants, pensais-je. Et j'ai réalisé que grâce à ces messages d'auditeurs, eh bien j'avais ausculté ce mot, j'avais creusé dedans. Et creuser, c'est aussi forer. Forêt, forêt ou forêt, Forez. Voilà comment les émissions d'un jour à l'autre se donnent la main, sans que ce soit prévu, parce que nous parlons des mots aujourd'hui. Les mots comme matériaux ludiques, comme source d'émerveillement. Les anagrammes sont un exemple éclatant parmi d'autres. Jouer avec le langage, c'est aussi observer la langue, s'en moquer un peu, essayer de comprendre ce que nos tics de langage disent de nous. Manipuler la langue, s'amuser avec, c'est donc amusant, c'est poétique, c'est parfois subversif, et pas seulement dans les monts du Forez. C'est parti, le langage comme terrain de jeu.
Dorothée Barba, sur France Inter.
Trois invités qui aiment les mots jusqu'à 10h. Une linguiste, un physicien et une artiste écrivaine. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue, la linguiste, c'est vous, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, autrice de « Je parle comme je suis » chez Grasset, ce que nos mots disent de nous. Vous avez choisi votre camp, vous, entre le forêt et le Forez?
Eh bien, moi, j'aurais envie de dire Forez aussi. J'ai envie de dire toutes les lettres. Et en effet, la norme est celle de mon pays, celle de mes voisins. Donc, ce que vous avez raconté, c'était parfait.
Et j'ai envie de dire, c'est déjà un tic de langage, je crois, mais on en parlera plus tard. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Bienvenue, physicien et philosophe. Vous êtes au micro de la conversation scientifique toutes les semaines sur France Culture, émission diffusée également cet été d'ailleurs. Le dimanche.
À 14h.
Voilà. Et vous aimez follement les anagrammes, Étienne Klein. La meilleure façon d'expliquer ce qu'est un anagramme, c'est de donner un exemple. Étreinte est l'anagramme d'éternité. Les mêmes lettres dans le désordre. Vous avez publié avec Jacques Perry-Salco, qui est pianiste de jazz également, un livre intitulé Anagramme renversante chez Flammarion. Alors j'essaye de vous imaginer en train de coucher ces anagrammes sur le papier et je me dis qu'il n'y a aucun verbe adapté pour décrire cette action. Est-ce qu'on invente une anagramme? Est-ce qu'on la fabrique? Est-ce qu'on la pond? Étienne Klein.
En fait, on la découvre parce qu'elle est déjà écrite dans les mots ou dans les expressions qu'on utilise. Mmh. Alors moi, je fais de la petite combinatoire, mais Jacques Perry-Salcoff, qui est un champion olympique, lui, il travaille par aspiration, c'est-à-dire il essaie de voir dans une expression s'il n'y a pas un mot dont il aimerait qu'il soit là.
Et il y est en général?
Il y arrive et il trouve des choses absolument incroyables de plusieurs lignes, alors que moi je me contente de petits anagrammes de deux mots maximum.
Allez, un autre exemple, tout de suite.
Bah, par exemple, Edgar Morin, qui vient de fêter ses 100 ans, a pour anagramme Marie Grondé, ce qui l'a pas empêché de se marier plusieurs fois.
C'est magnifique.
Enfin, ça l'a pas empêché, c'est peut-être la cause en fait, je sais pas.
Et on souhaite un bon siècle à Edgar Morin. Bonjour Clémentine Mélois.
Bonjour.
Artiste, plasticienne et écrivaine, membre de l'Oulipo, collectif d'auteurs qui s'impose des contraintes, dont Hervé Le Tellier, qui était notre invité lundi, est le président. Pas simple de résumer votre travail, Clémentine Mélois. Vous avez écrit des livres jeunesse. Je recommande d'ailleurs ardemment Radio Banane à l'école des loisirs. Vous commettez aussi des détournements, des pastiches, des photomontages, notamment autour des couvertures de livres. Et votre dernier ouvrage paru au Seuil, c'est un roman photo, ou plutôt une parodie de roman photo. Les six fonctions du langage, c'est son titre. Vous vous amusez follement, là aussi, avec les tics de langage. Vous les aimez, ces tics, Clémentine Mélois? Vous ne vous en moquez pas, on va pas se mentir.
Non, je ne m'en moque pas. J'aime les mots en général. Enfin, ça veut rien dire de dire ça, mais disons que ça m'intéresse particulièrement. Mmh. Et effectivement, oui, les tics de langage, j'en ai plein moi-même. Mais j'habite sur Paris, c'est un bien atypique, il va falloir se positionner rapidement et on va partir sur une salade de chèvre chaud. ça m'interpelle.
Alors justement, dans ce roman photo, quand un personnage part sur du fromage de chèvre, il part vraiment sur du fromage de chèvre. Il enjambe le fromage et il s'en va, il quitte la pièce. Et
il fait un excès de vitesse.
ce sont des vrais visuels de vrais romans photo avec des rouflaquettes et des cols pelletartes.
Oui, ce sont des images de romans photo brésiliens des années 60-70 parce que je trouvais les photos magnifiques déjà. Il y a une esthétique particulière avec des pantalons pattes d'éléphant, des rouflaquettes, de la moustache, des hommes dépoitraillés. Donc c'est quand même vraiment, ça fait plaisir. Et puis ça crée un décalage supplémentaire avec le langage qu'on utilise aujourd'hui.
Et le titre, précisons-le, est un hommage à l'éminent linguiste Roman Jakobson, Les six fonctions du langage. Intervenez en direct, chers auditeurs, chères auditrices. 01 45 24 7000, c'est le numéro du standard. Vous pouvez aussi nous laisser une note vocale sur l'application France Inter de votre téléphone ou alors nous écrire pour mieux peser vos mots à la page de l'été comme jamais, franceinter.fr. Gloria Jones sur France Inter, Tainted Love.
France Inter, l'été comme jamais.
Moi, ma mère, elle sait pertinemment qu'elle a niqué ma vie, elle a gâché ma vie.
Vas-y, casse-toi avec tes pertinemment, frère.
À cause de son nouveau lycée, essentiellement, pertinemment.
Elle trouve des mots qu'on connaissait même pas.
Mais pertinemment, en fait, c'est mon meilleur mot.
Ouais, depuis que dans ce lycée de français, en fait.
Très joli, et la langue française aussi. Et t'es quoi, elle a dit? On va parler français maintenant.
Quoi?
Tu sais, c'est quoi perspicace?
Quoi?
Perspicace! Bonne de gros con.
Ça veut dire quoi, ça?
Oh là là, c'est comme lucide, genre. C'est un peu comme lucide.
Redescends, ma gueule. Et tout pourri, ton lycée.
Eh, hey, vous êtes des jaloux, voilà.
Extrait de la série Tu préfères, une série délicieuse à voir sur Arte. Et j'aime beaucoup cette phrase, pertinemment, c'est mon meilleur mot. Alors je vais évidemment poser la question à mes trois invités, la linguiste Julie Neveu, l'artiste Clémentine Mélois et le physicien Étienne Klein. Qu'est-ce qui m'arrive? Étienne Klein, quel est votre meilleur mot?
Saxifrage.
De quoi s'agit-il?
C'est une plante.
Bien sûr. Clémentine Mélois, c'est quoi votre meilleur mot?
Le pire, c'est potage. Et le plus joli, je sais pas, j'aime bien pédiluve.
Ah, le truc de la piscine pour les pieds. Mmh. Il existe des jolis et des moches mots, alors, pour vous?
J'avais demandé au linguiste Bernard Sacchellini d'imaginer des mots pour ça. Et il a proposé calilexie pour les beaux mots et cacolexie pour les moches mots. parce que je trouve qu'il y en a des très très moches et des très très beaux, mais c'est subjectif.
C'est toujours un peu étonnant, notamment quand on propose de féminiser les mots de la langue française, d'entendre cet argument « oui mais c'est moche, écrivaine c'est moche », disent beaucoup de gens. C'est étonnant cet argument de l'esthétique du mot, non ?
Alors pour moi non, je trouve il y a des mots qui me plaisent beaucoup et d'autres que je supporte pas. Et ceux qui me plaisent, je les emploie complètement à tort et à travers, à mauvais escient, juste parce qu'ils me plaisent.
Un exemple, s'il vous plaît.
Je sais pas, quand j'étais petite, j'avais découvert le mot brisé, j'aimais beaucoup. Et je disais, c'est cette branche est brisée. Je disais n'importe quoi, je disais brisé. Il fallait que j'emploie ce mot brisé, que font tous les enfants, je suppose.
Vous faisiez donc de l'écriture sous contrainte avant l'heure. Julie Neveu, quel est votre meilleur mot ?
Moi, j'aime bien palpiter. Palpiter, hein ? Parce que c'est, en fait, ça vient de palper et ça veut dire qu'on le fait plusieurs fois. Je trouve ça joli. Mais non, pour revenir sur l'argument esthétique, ouais, c'est pas surprenant du tout, c'est tout à fait spontané, normal, puisqu'une fois de plus, c'est une question d'habitude, comme les monts de Forez, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a toujours entendu, qu'on trouve beau, et c'est pour ça que souvent, il y a des arguments sur l'esthétique de la langue française, et qu'il faut combattre les nouveaux mots étrangers, parce qu'ils sont barbares, vous voyez, cet argument de la barbarie qui est au-delà de ce que je connais, et en fait, je dis toujours, attention, vous allez vous habituer, donnez-vous 5 ans, 10 ans, l'Académie française, par exemple, était fâchée que le terme « manager » arrive de l'anglais, et puis à un moment, elle a dit « oh, ça va ». Si on le prononce à la française, et c'est juste qu'elle s'était habituée, en fait, il y a une habituation, et après c'est bon.
Ça donne quoi, manager, prononcé à la française ? Manager ?
Manager. Manager. Sur un bon manager.
Sur un malentendu, ça peut passer. Alors les anagrammes, premier exemple de ce langage comme terrain de jeu, Étienne Klein, les mêmes lettres dans le désordre. Évidemment, on se demande comment vous faites. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous découvrez une anagramme ?
Alors, comme je l'ai dit, je suis un amateur, mais il y a des professionnels. Bon, en fait, c'est comme une réaction chimique. L'anagramme, c'est la chimie du langage.
Ah, là, c'est le physicien qui parle.
Non, quand vous avez un atome, en général, on le désigne par une lettre. L'hydrogène, c'est H, le carbone, c'est C, etc. Eh bien, les atomes, ils appartiennent à des molécules. Donc, les molécules sont pour les atomes ce que les mots sont pour les lettres. Et une réaction chimique, c'est un processus qui va modifier l'appartenance de chaque atome à une molécule. On va avoir d'autres molécules à la fin, parce que les atomes ont changé de place d'appartenance aux molécules. Et bien l'anagramme, c'est la même chose. On change la position des lettres dans un mot ou dans une expression.
Et ça
fait donc une sorte de réaction chimique dans le langage. Parfois, c'est sidérant, parce qu'on a l'impression qu'il y a un sens caché qui est révélé. Moi, j'avais découvert les anagrammes, en fait, en voyant dans une librairie un livre orange qui m'avait intrigué, qui s'appelait Le Pékinois, écrit par un certain Jacques Périssalkov, que je ne connaissais pas, et il avait fait des anagrammes de noms propres, de personnages. Et parfois, c'est cisaillant. Par exemple, dans ce livre, il y avait l'anagramme du maréchal Pétain, le maréchal Pétain, qui donne place à Hitler, amen. Évidemment, ça glace.
Dans le livre que vous co-signez justement avec Jacques Périssalkov, on découvre notamment celui-là, Le Commandant Cousteau.
Tout commença dans l'eau. Mais lui, on a trouvé des très longs qui sont magnifiques. Par exemple, vous connaissez la rencontre entre Georges Sand et Chopin. Il a joué au piano et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse. Quand elle l'a simplement vu, c'est rien passé. Or, si on prend l'état civil de Georges Sand, c'est Aurore Dupin, baronne du Devant, alias Georges Sand. Et toutes ces lettres recombinées par Jacques Périssalkov, ça donne « valsera d'abord au son du piano d'un génie étranger
». Est-ce que vous savez combien de temps ça lui prend pour trouver
Moi, je serais incapable de lui, je pense qu'il y passe beaucoup de temps. Il vient de publier d'ailleurs, non pas des anagrammes, mais un long palindrome de 16 signes.
Donc le palindrome, c'est une phrase qui se lit dans
les
deux
sens. En restant invariante. Et je pense qu'il y a passé un temps fou. Ça s'appelle Sorel Eros, pardon.
L'exemple le plus connu de palindrome, c'est « Ésope reste ici et se repose », une phrase qui se lit dans les deux sens.
Il y a aussi élu par cette crapule.
C'est joli aussi. Le sens caché, évidemment, chercher des signes dans les anagrammes, c'est très tentant. Le physicien que vous êtes n'est pas un peu dérangé par cette idée-là ?
Non, c'est une coïncidence. En plus, les anagrammes ne sont pas traduisibles, elles n'ont pas une portée universelle. Mais en fait, il y a un effet de surprise, de cisaillement parfois, quand on a l'impression qu'un sens caché se révèle. En fait, il n'y a pas de sens caché, c'est simplement une coïncidence. Mais on est tous un peu kabbalistes et on pense que les mots sont porteurs de messages, qu'il y a une sorte de secret qui est révélé par l'anagramme.
Julie Neveu. Alors, il y a un secret dans l'anagramme?
Mais c'est-à-dire, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, tous ceux qui pratiquent ce genre de jeu du langage défient une autorité, puisque le langage écrit, notamment, vraiment, s'installe dans cette linéarité qui est un ordre que, dont je trouve qu'il, très vite, il a une sorte, bon, Barthes parlait de fascisme, mais disons, un ordre établi. Et puis, vous voyez bien que les enfants, quand ils commencent à tracer les lettres, eh bien, ils les font à l'envers, souvent, et on leur dit non, à l'endroit. Donc, il y a à l'endroit, il y a la linéarité. Et en fait, à chaque fois qu'il y a, que ce soit des anagrammes, que ce soit toute forme poétique, en fait, c'est il s'agit de casser en fait la forme de cette la linéarité pour faire émerger un sens nouveau. Et vous voyez que même la poésie, enfin, en quoi c'est un processus poétique, c'est que ça fait ressurgir la forme aux dépens du sens. Et en fait, pour ça, il faut que le sens devienne un peu opaque et qu'il nous résiste, quoi, qu'on soit surpris. Mmh. Cette surprise dont vous parliez, Étienne.
Une sorte de lapsus exact.
Exactement. Et en fait, vous voyez que la poésie, vous savez, le vers, c'est versus, parce que retourner en latin, c'est-à-dire que ça crée une forme, et de la forme surgit la possibilité d'un nouveau sens. Et c'est exactement pareil avec anagramme, vous renversez. Donc à chaque fois, il s'agit de renverser une forme établie. Et il y a dans ce geste complètement de l'anarchie, un défi à l'autorité, et donc tous les détournements que vous faites, Clémentine. Moi, je vois vraiment là un jeu, un espace d'exploration, comme les enfants qui posent des contraintes, mais pour le plaisir pur, qui ne serait pas celui de la fonctionnalité du sens. En fait, le langage cesse d'être utile, bêtement utile. Et donc, on sort de notre quotidien, on approche des marges un peu poétiques.
C'est peut-être pour ça que Jacobson disait que ça participait de la poéticité de la langue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la poéticité, mais quelque chose de subliminal qui est révélé par l'anagramme. Oui.
Clémentine Mélois, vous avez notamment commis des pastiches, des détournements de couvertures de livres. Ça s'appelle « Sans titre » chez Grasset. On y trouve notamment « Père Aiguet » de Tolstoï, ou encore « Légumes des jours » de Boris Vian, ou encore « Maudit Bic » de Herman Melville. Une couverture rayée au stylo Bic, évidemment. Est-ce que vous diriez que ça se rapproche, que c'est un exercice similaire à celui des anagrammes?
Bah, c'est similaire. Alors je suis incapable de faire des anagrammes. Je ne c'est pas mon truc.
Incapable de trafiquer des titres.
En revanche, ce que ça provoque quand on dit quand on raconte cette découverte de l'anagramme, tout le monde fait oh et on sourit.
Oui.
Et ce qui se passe, c'est que ça raconte une histoire. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la potentialité. Quand je détourne, quand j'écris maudit bic sur une couverture, ça fait sourire parce qu'on imagine toute l'histoire que ça raconterait. Père Aiguet de Tolstoï, j'ai pas besoin de réécrire le livre, on l'a dans la tête et c'est là où on sourit. Et en fait, les anagrammes racontent une histoire, les détournements racontent une histoire, et c'est une histoire que chacun se fait dans sa tête à partir de quelques petits mots comme ça. Et ça, j'aime bien, c'est comme une sorte de générateur de pompe à histoire.
Il y a dans votre travail un souci constant de mélanger la culture classique et la culture populaire, Clémentine Mélois. Est-ce que jouer avec le langage, c'est parfois un peu ne pas parler à tout le monde?
Je ne pense pas, au contraire. Je pense que c'est parler à tout le monde. Et c'est pas tant que j'ai...
Je me faisais la réflexion, notamment en feuilletant Sans titre. Il faut parfois avoir la référence pour comprendre l'humour dont vous faites preuve.
C'est vrai, il faut avoir la référence... de littéraire ou la référence à la culture populaire, mais il y a toujours une petite note à côté parce que j'aurais horreur que les lecteurs se sentent perdus. Précisément, j'aime pas du tout l'idée d'être excluante dans ce que je fais. En revanche, oui, moi je fais des choses avec ma culture et c'est un mélange d'amour de la littérature et de chansons des années 80 entendues au supermarché. Donc j'aime bien mélanger Daniel Balavoine et Roland Barthes, par exemple, pourquoi pas.
Tendre, elle m'ennuie, de Francis Scott Fitzgerald. C'est un autre exemple. Julie Neveu.
Mais c'est-à-dire que je remarque quand même que, enfin, en tout cas, Moby Dick, Fitzgerald, c'est quand même des monuments sacrés. Et donc, moi, je vois ça, ce geste de taper dedans, de dire, regardez, on va faire de Moby Dick, qui est quand même ce roman épique tellement difficile à lire, magnifique, mais tellement ardu. Je trouve.
C'est mon roman chéri. Mais ça fonctionne avec des références communes. Oui. J'ai détourné ces livres-là. Ce sont des grands classiques parce que le sourire du lecteur ne fonctionne que s'il a le titre original en tête. Oui. Et c'est justement parce qu'on a déjà les couvertures et les titres en tête qu'on se dit ah mais. Il y a un imprévu. Tiens, mais c'est pas le titre que je connais. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Mais ça ressemble beaucoup à l'original. C'est aussi là-dessus que repose l'humour. C'est que vous faites une photo, un détournement de la une. Enfin, de la une. Un détournement de la couverture du livre original.
De la couverture et avec plein de sortes d'éditions différentes. En fait, c'est ma bibliothèque. Ah. Donc, il y a des éditions que j'ai découvertes quand j'étais au lycée. Ça évolue beaucoup. Les couvertures changent. Mais quand on aime les livres, on est attaché à une forme d'édition et les autres. n'ont pas de sens. Enfin, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux dans cette collection-là qui sentait le grenier moisi. Donc les éditions récentes de poche, c'est pas mon livre, c'est pas possible.
Étienne Klein, les anagrammes sont-elles excluantes? C'est une question que vous vous posez parfois?
Jamais, non, je vois pas en quoi elles seraient excluantes. C'est un jeu, le jeu, il peut être compris par tout le monde, la règle est simple.
La règle est simple.
Ah oui, non, la règle est simple. La règle est très simple.
Bah, la fabrication est compliquée, mais la règle est simple.
Compliquée, mais la règle est simple. Donc, et au contraire, je pense que ça nous rapproche parce que ça nous fait sourire à chaque fois, ou alors ça nous émeut, ou parfois ça nous semble très poétique. Les poètes comme Desnos sont amusés à faire des anagrammes, notamment dans les années 20. Le temps est un aigle agile dans un temple. Là, ça, c'est une phrase de Desnos magnifique. Agile, aigle. Donc il y a à la fois quelque chose qui rapproche les syllabes, mais aussi les lettres. C'est assez puissant.
Vous savez,
je vois pas en quoi ça pourrait exclure quiconque.
En tout cas, on peut se sentir incapable d'en faire, déjà. C'est mon cas. D'en faire, d'en trouver, d'en inventer.
Quand il y a peu de lettres, c'est très, très facile de voir toutes les combinaisons. Voir que les Le Pen, ça donne le spleen, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
Je jouerai jamais au Scrabble avec Étienne Klein,
c'est ça?
Non, justement. Justement, je travaillais au Scrabble et Jacques Kriselkov m'a dit aussi qu'il était mauvais au Scrabble parce qu'il faut qu'il y ait un sens au départ.
Ouais.
S'il n'y a pas de sens au départ, on n'est pas guidé et du coup, on ne trouve rien.
Alors ça, vous êtes nul au Scrabble.
Ah, nul, complètement.
Vous savez sans doute qu'il existe sur Internet des générateurs d'anagrammes, des applications.
Oui, mais ils ne trouvent pas les bonnes.
Voilà, on entre un mot sur le site et ça nous propose l'anagramme, mais c'est toujours décevant.
Non, il y en a plein et puis elles ne sont pas toujours bonnes et puis elles sont en général incomplètes. C'est-à-dire qu'il y a des lettres qui n'ont pas de sens. Et d'ailleurs, dans le livre qu'on a fait ensemble avec Jacques Kriselkov, toutes celles qu'on a mises sont pas trouvées par les algorithmes.
Non, c'est toujours votre.
Par exemple, si vous mettez Albert Einstein, les logiciels vous donnent inerte absent ou inertiel, inerte instable.
Les contresens en anagramme sont savoureux aussi, remarquez.
Mais ils ne trouvent pas la bonne anagramme d'Albert Einstein qui est « rien n'est établi
». Avez-vous par hasard cherché les anagrammes de nos invités du jour?
Oui, j'ai pas été très, très successful.
Ah.
Clémentine Mélois, ça donne ce millième sonnet quand même.
Ah oui, ce millième sonnet. Et Julie Neveu, non?
J'ai rien trouvé, je suis désolé. Et Dorothée Barba, Éther, Adora Bob, je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça.
Écoutez, je vais réfléchir.
Si, il faut que ce soit votre vérité. Alors, il faut absolument que vous trouviez le sens.
Il faut réorienter sa vie en fonction de son anagramme.
She worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just wore smiling. Bust down, baby, ain't tired of this. Run it, run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon. Wanna buy Chanel, they just dropped them two bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight. She wants to answer that for so bad to feel nice. But she gon' handle that, it comes with a small price.
Yeah, I give, you take. Been keeping track like I'm a train. Even with drip, I'm feeling drained. It's getting long hair like braids. Two sides, either really rude or too nice. So before it goes left, you better move right.
Top down, cause she worked hard for it. But blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Up and she just was smiling. Bust down, baby, ain't tired of this.
I give again. Show me the play if it's a game. If there's no point, then what's the aim? It's like you're eating off my name. Again, the price of fame is really costing me. Spend again, nothing in this life comes for free. They say the talk is cheap, furthermore it's free. If I go broke today, will you stay or leave? I felt so hard, so deep, wore my heart upon my sleeve. Every word you say, I just believe, so call me Miss Naeem.
Top down, cause she worked hard for it. But blacked out, so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up, and she just wore smiling.
and it's naive, so trusting of everybody and anybody. Not if you're a bitch like me, cause of the bitch I be. I told you to be careful of me, be careful, honey.
They call me Miss Naive, I'm still naive. I put trust in all the ones that got me. They never really had me see. If you cough up with me, be real with me. You got to be careful loving me, careful, honey.
Yeah,
so
come on, turn to it. What's it say? You don't know what's a beast there. Me no eat from nobody. Me no eat from no, me never eat from nobody. I never eat from anybody.
Buzz Down, Georgia Smith dans l'été comme jamais. Nous jouons avec la langue, avec le langage, avec les mots ce matin jusqu'à 10h, avec Clémentine Mélois, artiste plasticienne et écrivaine, avec Étienne Klein qui est physicien et philosophe, et avec la linguiste Julie Neveu, une auditrice à appeler au standard. Bonjour à vous Nathalie.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous aimez jouer avec les mots vous aussi je crois.
Oui, mais plutôt les amis avec qui j'étais hier, qui sont plasticiens, qui m'ont fait découvrir l'ambigramme.
L'ambigramme, expliquez-nous ouais. Ça.
Eh ben, en fait, Antoine avait créé en 3D une composition d'un paysage avec une partie en lac, en miroir. Et sur le plan vertical, il avait calligraphié le mot « herbe » et dans le reflet apparaissait le mot « folle ». Et je trouvais que c'était très poétique et magnifique, « herbe folle ». Et c'était, je sais pas comment vous dire... Je sais pas comment il fait. Il m'a montré d'autres exemples. Et j'aurais aimé qu'on en parle un peu parce que je trouve que ça peut avoir beaucoup de poésie. Je pense que dans l'histoire et l'actualité politique, ça a dû être utilisé dans les logos aussi des marques. Mais moi, c'était sur le plan artistique aussi que ça me plaisait beaucoup. Et est-ce que vous auriez des exemples? Et est-ce qu'on connaît un peu l'histoire de l'ambigramme? Moi, j'ai trouvé ça sublime, quoi. Enfin, voilà, moi, ça m'a beaucoup touchée.
Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir appelés. Je vais donner la parole à la représentante ici de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. L'ambigramme, vous connaissez, Clémentine Mélois?
Je connais une phrase, un ambigramme, en fait, qui se lit dans un sens, et quand on retourne la feuille, on peut le lire aussi.
Alors, vous nous l'avez écrite, parce que pendant la pause musicale, on parlait des ambigrammes, vous nous l'avez écrite sur une feuille. C'est pas très radiophonique hein, comme sujet, l'ambigramme. Ça donne quoi? Allez-y.
Andin Basnoda a une épouse qui pue.
Et quand je retourne la feuille, les lettres lues à l'envers donnent...
Andin Basnoda a une épouse qui pue.
Franchement,
c'est un ambigramme de Georges Perec.
C'est un tour de magie.
Et le typographe Pierre Dichoulot a créé une typographie qui s'appelle la Basnoda et qui est conçue pour être lue dans les deux sens. Ah. Je ne connais pas d'autres exemples d'ambigrammes. J'avais celui-là en tête. Mais...
voilà, donc le mot pue qui est à la fin se retrouve au début. Le E devient A, le U devient N. Voilà, c'est encore une fois très visuel, mais c'est un tour de magie. On se dit que la langue française regorge de tours de magie potentiels, Clémentine Mélois.
Oui, il suffit de chercher un peu.
Julie Neveu.
En fait, non, mais c'est intéressant avec ces jeux. On parlait de la poésie tout à l'heure, mais c'est comme les calligrammes. Donc là, il y a un jeu avec l'image qui surgit de la forme des lettres, en fait. Et donc se rappeler, en fait, que les lettres sont faites, constituées de cette matière qui est une forme, qui est un dessin, et donc qui rejoint l'art de ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qui est beau, ce qui peut émouvoir. Et donc souvent, évidemment, puisque il y a plus, vous savez, en linguistique, on distingue le signifiant, c'est-à-dire cette matière du mot, et le signifié, ce à quoi il renvoie dans la réalité. Et nous, eh bien, tout le temps, toute la journée, on parle parce qu'on va vers le signifié, on se projette vers le signifié. Et là, d'un coup, le signifiant reprend, se déploie, en fait. Et ça, rien que ça, c'est un moment de magie.
Mais ceci dit, la phrase en question a un sens, hein, cette épouse qui
pue. Oui, mais est-ce que ce sens nous plaît? Est-ce que c'est vraiment le sens qui nous intéresse?
Francis Ponge, pour son poème L'abricot, avait demandé au typographe que les O aient la forme d'un abricot. J'avais lu ça.
Oui, parce que c'était la matière des choses aussi. Ouais. Ouais, ouais.
Étienne Klein.
Non mais c'est aussi sérieux hein, tout ça, c'est pas qu'un jeu. Il y a des vérités mathématiques, par exemple en anglais, vous pouvez écrire...
On n'est pas là pour rigoler.
11 plus 2 ouais. Égale 12 plus 1. Ça marche avec les lettres et c'est aussi une vérité arithmétique. Et puis dans l'histoire, on a utilisé les anagrammes pour protéger des découvertes. Oui. Par exemple, Galilée, quand il faisait des découvertes astronomiques, pour en avoir la paternité, parce qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il voyait, écrivait une phrase en latin, envoyait une anagramme de cette phrase à Kepler. Et le miracle, c'est que Kepler, parfois, a mal traduit l'anagramme de Galilée. Et cette mauvaise traduction a correspondu à une vérité astronomique découverte plus tard. Par exemple, quand il a découvert les phases de la Lune, il a écrit « La mère des amours imite les figures de Cinti ». Cinti, c'est la déesse associée à la Lune, et la mère des amours, c'est Vénus. Uh-huh. Il a écrit ça en latin, mélangé les lettres, envoyé à Kepler, et Kepler, en rentrant du réveillon du 1er janvier 1611, croit avoir décodé le message sous une forme en latin que je ne vais pas lire, mais la traduction, c'est « Car Jupiter, las, témoigne-t-on, tourne maculé d'une tache rousse ». Et quelques années plus tard, en 1660, Cassini et Hooke ont découvert la tache rousse sur Jupiter.
Donc, en voulant,
qui est lié à une sorte d'ouragan.
En voulant écrire un message codé, il a dit une vérité qu'on ne savait pas
décodé,
encore.
Et c'était quand même une vérité astronomique découverte plus tard. Il y a d'autres exemples du même type. Ça veut dire que, il y a des vérités cachées qui sont enfouies à la fois dans le coffre des mots et dans le ciel des astronomes.
Kepler et Galilée qui communiquent par message codé.
Et il y a même Huygens proposait que les découvertes scientifiques soient envoyées à la Royal Society sous forme d'anagramme. Et ça marche pas parce que vous avez entendu parler de la découverte du boson de Higgs.
Bien sûr.
En 2012, et bien il y a un des trois physiciens théoriciens qui ont prédit cette particule, il s'appelait François Englert. C'est un Belge, il n'était pas content qu'on l'appelle le boson de Higgs, puisqu'ils étaient plusieurs à avoir eu la même idée. Et quand la particule a été découverte en 2012, il a milité pour qu'on l'appelle le boson scalaire. Qu'on lui donne pas le nom d'un physicien, mais comme c'est un champ scalaire qui décrit cette particule, le boson scalaire. Il est venu à Saclay présenter un exposé, et puis au déjeuner, il nous a dit ça, et on lui a dit, mais c'est pas une bonne idée. Il dit, pourquoi? Parce que, on lui a dit, le boson scalaire a pour anagramme, bière sans alcool. Il a l'IA pour un Belge, c'est pas possible.
C'est pas possible. Julie Neveu, moi cette histoire de physiciens qui communiquent par langage codé, ça me rappelle les petits mots qu'on se faisait passer en classe.
Oui, c'est vrai.
On essayait de trouver un symbole pour une lettre, histoire que le prof, s'il tombe sur le papier, ne puisse pas comprendre ce qu'on se dit. Le langage aussi offre ça.
Tout à fait. En fait, les causes du cryptage sont diverses. Et donc, vous avez cité, Étienne Klein, des motivations tout à fait sérieuses, scientifiques, pour échapper à la censure. Il y a des causes plus ludiques.
C'est pas la censure, c'est protection.
Protection. Oui, oui, protection des découvertes. Mais il y a aussi... moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi, vous savez, Voltaire, Hergé, tout ça, ce sont des pseudonymes. Voltaire, un anagramme, donc, et c'est vrai que on a...
Marguerite Yourcenar aussi, voilà. Est un anagramme.
Et en fait,
Une anagramme.
Une anagramme, oui, c'est vrai.
Oh là là,
oui,
mais une anagramme. Marguerite de Criancourt, voilà. Était son véritable nom.
Et c'est comme si, je trouve, dans ce besoin de choisir un nouveau nom, il y avait le besoin de s'émanciper, justement, de quelque chose de sérieux, d'une identité officielle, et d'ouvrir un espace de création. C'est-à-dire des auteurs qui ont besoin de dire, OK, c'est comme ça que je m'appelle. Et qui décline une sorte d'avatar d'eux-mêmes, et ça leur ouvre la possibilité de créer.
Une auditrice nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter. On va l'écouter. Voici Camilla.
Bonjour, je voulais juste partager avec vous que mon mari aime beaucoup de temps en temps revenir à la maison avec ce qu'on appelle des mots compliqués. Et il faut qu'on devine avec les enfants ce que ça veut dire. Et un de mes préférés, par exemple, c'est parasquevidecatriaphobe. Une parasquevidecatriaphobe qui veut dire la personne qui a la phobie des vendredis 13. Un autre joli, c'est leucosélophobie, la phobie de la page blanche. Et mon préféré, sans doute, hippopotomonstrosesquipédialophobie, qui signifie avoir la phobie des mots compliqués.
J'adore cette idée de récolte de mots compliqués le soir en rentrant du boulot. Clémentine Mélois, ça vous séduit aussi?
Ah ouais, j'adore. Oui, je vais développer.
Franchement, j'ai envie de dire, pourquoi pas.
Non, il y avait un jeu. Je participais à une émission sur France Culture qui s'appelait Des papous dans la tête, et on jouait beaucoup.
Culte.
On peut jouer au jeu du dictionnaire où on propose plusieurs définitions pour un mot, et c'est toujours très amusant. Après, si on n'a pas fait de grec ou de latin à l'école et qu'on n'a pas les références pour l'étymologie, c'est plus difficile, mais C'est vraiment très amusant.
Laurence nous écrit sur le site de France Inter, elle cite un proverbe arabe, « Mets les mots à leur place, à la tienne, ils te placent ». C'est joli, ce sera peut-être le slogan du jour. J'aimerais qu'on passe des anagrammes et des jeux de langage au tic de langage, parce que c'est aussi une forme de jeu, me semble-t-il, de jeu linguistique, que de se moquer des tics de langage. À la une de votre, en couverture décidément, en couverture de votre roman photo, Clémentine Mélois, il y a cette magnifique phrase, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette phrase, j'ai envie de dire?
Là, je l'ai mis sur la couverture avec un point, c'est j'ai envie de dire.
Point.
Point. Et
Et finalement, c'est ce que j'entends, j'ai envie de dire, ça veut dire ça, j'ai envie de dire. Y a quelque chose de, par rapport à ce que vous disiez sur les mots compliqués, on manque toujours de vocabulaire. Ce qui est fascinant avec le monde qui nous entoure, c'est que tout peut être nommé. On peut tout nommer, il y a un crayon, il y a un mot pour tout. Il y a des mots allemands très compliqués qui disent, je sais pas, des mots valises, la transpiration entre les doigts de pied quand il fait très chaud en été. C'est ça qui est fascinant et c'est pour ça qu'on utilise parfois des anglicismes parce que ça correspond à un truc très particulier.
Est-ce qu'il y a des mots pour tout ou est-ce qu'on ne connaît que ce qui porte un nom?
Et bah, peut-être qu'il faut justement nommer les choses pour lesquelles il n'y a pas encore de mots. Et parfois, par facilité, eh ben, on résume, on met tout ça dans un grand fourre-tout et ça devient des tics de langage. Et tout le monde se met à parler de la même façon et on ne se pose absolument plus la question. Ce que j'aime bien, c'est décaler un peu le regard et se dire, mais par exemple, il y a 30 ans, si on m'avait dit cette phrase, j'aurais rien compris. Par exemple, une phrase comme « Venez dès à présent tester votre éligibilité à la fibre ». Revenez en arrière, voilà, on est en 1985, « Venez dès à présent tester votre éligibilité à la fibre ».
C'est le début d'un poème.
Voilà, est-ce qu'il y a du gluten dans le smoothie banane? J'ai toute une collection comme ça que j'aime beaucoup. Il y a alors des trucs des émissions de télé-réalité.
C'est dead pour l'after, je crois.
C'est dead pour l'after. Elle est partie en vacances avec son plan Tinder. Il y a plein de phrases. Et finalement, on ne se pose plus la question si on s'arrête un instant et qu'on écoute ça. Et puis alors, tout le jargon du milieu de l'art, du milieu journalistique, du milieu... J'aime bien celui aussi des agents immobiliers.
Bien atypique.
On est sur un bien atypique. On est surtout, en fait.
Il y a un effet coup de cœur également.
Il y a un effet waouh. On est clairement sur une notion d'effet waouh. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà.
Écoute-toi parler, peut-être. Julie Neveu, quand on ne parle pas tout seul. On parle avec son temps et le temps parle de nous. Voilà ce que vous écrivez dans votre livre. Notre époque prend la parole à notre place. C'est ça que disent les tics de langage.
Ah bah oui, tout à fait. Mais Clémentine vient de faire un superbe exemple. C'est-à-dire que ce qui est compréhensible aujourd'hui ne l'aurait pas été il y a 20 ans. Et ce qu'ils diront dans 20 ans sera peu compréhensible. D'ailleurs, à nous-mêmes, peut-être, les plus jeunes, c'est aussi un conflit générationnel. Hein. Le temps passe et on absorbe un lexique sans se rendre compte. En fait, on est très inconscient de ce qu'on utilise la plupart du temps. Et on attrape, les expressions circulent et par mimétisme, on les attrape et on les redit. Et parfois, on se met à les dire sans arrêt avec une sorte de psittacisme comme ça. Et les autres on fait le perroquet.
Le psittacisme.
Ouais, et le perroquet. Et c'est quelqu'un d'autre qui va dire, mais t'as dit 10 fois là, du coup, j'ai rien compris au fait.
J'avoue,
où est le sens? Et c'est vrai qu'il y a un rapport sens-non-sens qui est fragile, on va dire. Et ce que Clémentine montre, ce que j'aime bien, c'est qu'elle bascule du côté du non-sens puisque ça devient complètement impertinent, c'est-à-dire ça ne convient pas à la situation. Vous confrontez des registres qui ne conviennent pas du tout, c'est ça qui est très drôle.
Qu'entendez-vous, Julie Neveu, quand quelqu'un dit « j'ai envie de dire »
J'ai envie de dire, moi j'entends mais tout à fait ce qu'a dit Clémentine, c'est-à-dire qu'il y a une grande envie de parler, donc un enthousiasme que Jacobson, n'est-ce pas, appellerait, enfin qui fait partie, je pense, de la fonction fatigue, c'est-à-dire qu'on a envie de se mettre en rapport avec son interlocuteur et de capter son attention.
De mettre en scène le fait qu'on parle.
On met en scène le fait qu'on parle et par ailleurs, je pense qu'on ne sait pas trop ce qu'on va dire par ailleurs.
Donc c'est une manière
sait plus
de
qu'on
gagner
a envie
du temps.
De le dire. Voilà, on gagne du temps, on réfléchit et on s'implique et tout en ayant un petit doute sur la pertinence de ce qu'on va dire après. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont en conflit et ça crée des mots qui meublent un petit peu le vide cognitif malgré tout. Ouais.
J'avoue, je suis en mode burn-out. Oui. Qu'a déclenché cette phrase chez vous lorsqu'elle a été prononcée par votre frère, Julie Neveu?
Eh bien, je me suis demandé s'il y avait... Je me suis dit qu'il avait dû être beaucoup en contact avec les séries policière avec ce verbe avouer, vous savez, qui donc n'est plus du tout, n'avoue plus rien, il n'y a plus d'objet direct. Mais en fait, j'avoue aussi devient une posture, une mise en scène aussi. J'avoue, et c'est juste, je raconte, mais vous remarquez que quand ils disent j'avoue, c'est quand même, il y avait quelque chose d'inavouable au départ, c'est-à-dire qu'il y a une surprise, justement. Donc vous pouvez dire qu'il y a ça. En fait, il y a toujours une petite utilité dans le contexte conversationnel.
Ça veut dire en effet.
Oui, peut-être. Ça veut dire, tu dis à quelqu'un, ah bah tu vas t'ennuyer ce soir, et il dit, oh j'ai pas du tout envie d'y aller, le lendemain matin il dit, bon j'avoue, je me suis bien amusé. Donc, on va à l'encontre, on revient sur quelque chose qu'on avait dit et on se défausse.
Et ce, j'avoue, donne lieu à quelques pages magnifiques dans votre roman photo, Clémentine Mélois, les 6 fonctions du langage, c'est quelqu'un qui avoue tout, mais il est au tribunal, évidemment.
Il est au tribunal, et donc voilà. Il est au tribunal et donc le juge dit, vous avouez? Ah non, pas du tout, j'étais là, j'avoue, vous avouez? Mais alors j'avoue, je le disais au début pour m'amuser, enfin au second degré, maintenant je le dis vraiment couramment. Mais je l'orthographie dans ma tête, J-A-V-O-U.
Normal, oui. En langage SMS.
En langage. Et donc,
Voilà, c'est comme s'il y avait des bulles de romans photo qui sortaient de moi quand je parle et je dis j'avoue.
Étienne Klein, l'éthique de langage sont-ils une forme de paresse langagière ?
Ah ça, je suis pas capable de dire comment ils apparaissent en fait. Est-ce qu'on sait dire qui le premier a dit par exemple
On va pas se mentir.
Non. Depuis il y a non depuis maintenant 3 ans. Depuis maintenant.
Ah oui, depuis maintenant. Ouais.
Tout le monde dit ça, mais quel est le premier à l'avoir dit et comment une nouvelle expression peut-elle percoler et devenir une expression courante?
C'est vrai qu'il faudrait chercher la source.
Ils sont capables de retracer l'histoire de ces expressions.
Les linguistes ont du mal à retracer le premier locuteur, le contact zéro, vous savez, du titre.
Le cas zéro.
Le cas zéro, ça je veux dire. Mais non, en revanche, moi je remarque que toutes les expressions qui ont à voir avec l'inscription du locuteur dans un espace-temps, donc ça c'est ce que vous dites là.
Les pléonasmes.
Voilà. Ont tendance à être pléonastiques. Donc au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui était déjà le redoublement du jour. Ce que vous avez dit, c'est-à-dire dès à présent.
Non, depuis maintenant.
Il y a aussi d'ores et déjà que j'entends beaucoup. C'est-à-dire que ont tendance à proliférer à l'initial, au début d'un discours, ces mots-là, pour une fois de plus s'inscrire davantage dans la situation et dire
Et qu'est-ce
d'où
qui fait
parle.
Qu'il y a des mots qui changent de sens? Par exemple, naguère, il n'y a guère, ça veut dire que c'est tout récent et c'est devenu naguère, c'est autrefois.
Ah ouais, ben ça je sais pas. Je sais pas.
On restera sur cette incertitude, c'est aussi la beauté de la langue. Camille nous suggère un jeu en famille. Nous avons ce jeu familial, la création d'un dictionnaire improbable. L'idée est simple, écrit cette auditrice, on part d'un mot qui existe et on invente une définition qui fait référence au mot, mais pas que. Exemple, le frêne est un arbre qui ralentit. Nous avons ainsi publié 5 dictionnaires entre nous. Voilà, très bonne idée de jeu en famille. Est-ce que vous auriez, vous qui êtes membre de l'Oulipo, Clémentine Mélois, des contraintes à nous suggérer pour jouer avec la langue?
Oh là là, c'est compliqué de répondre à ça en une phrase.
Le proverbe,
énormément de contraintes.
Attendez, comment
le perverbe.
Le perverbe, c'est mon préféré.
Le perverbe, on prend deux proverbes qui existent et on les mélange.
Ça donne. Est-ce qu'il peut être polymorphe?
C'est ça, un perverbe polymorphe.
Vous nous venez. Vous nous donnez un exemple de perverbe?
Le premier qui me vient en tête, dont a parlé Hervé Le Tellier, notre président hier, c'est qui a bu boira et qui m'aime me suive, et ça fait qui a bu me suive. Voilà.
S'il en est capable.
Il y a des choses intéressantes. On appelle à l'Oulipo, on parle de langage cuit. Ah. Le langage cuit, ce sont des expressions toutes faites qu'on emploie. Alors, un vieillard encore vert, ou alors, je sais pas, je manque d'à-propos, là, de composer des textes avec le plus d'expressions toutes faites, comme ça. Après, ça ressemble à un roman
arlequin. Un globi-boulga, voilà, c'est ça.
Le soleil dardait ses rayons ardents à travers les persiennes mi-closes.
Génial. Un dernier perverbe pour le plaisir. Rien ne sert de courir dans un gant de velours.
Cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens,
on laisse
cet idiot.
Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire?
M avec Ours sur France Inter, petit jeu, et un grand merci à Jean-Paul qui m'a envoyé par courriel l'anagramme de mon patronyme, Dorothée Barba, ça donne Théo à barbe d'or.
Bravo.
Ainsi m'appelais-je désormais. Étienne Klein, Clémentine Mélois et Julie Neveu, invités de l'été comme jamais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Or, ces trois-là ne sont pas des imbéciles. Ils vont donc pouvoir répondre à ma dernière question. Sur quel sujet, un parmi d'autres peut-être, avez-vous changé d'avis, Étienne Klein?
Dans le dernier roman de Hervé Le Tellier, L'Anomalie, il dit quelque part, vieillir, c'est avoir été un fan des Stones et se rendre compte que les Beatles, finalement, c'est pas mal. Donc j'ai vérifié pour moi et j'ai pas changé d'avis. J'aime toujours les Stones. Par contre, là où j'ai changé d'avis, c'est à propos de L'être et le néant de Sartre. Quand j'étais en terminale, il y avait des sartriens dans la classe qui lisaient des extraits. J'étais fasciné par ce langage. Il y a des fulgurances. Et puis je l'ai relu très récemment, entièrement, 700 pages. Pour un livre que j'ai écrit sur le vide, et je me suis rendu compte que c'était en fait de la gnose.
C'est-à-dire ?
Une sorte de gnose, de langue imprécise, verbeuse.
Sartre,
et j'ai été très, très déçu, même si, en effet, il y a des fulgurances, il y a des pages magnifiques sur le mensonge, etc. Mais il y a aussi du verbe.
Il a changé d'avis sur Sartre. Clémentine Mélois, c'est à vous.
La première chose à laquelle j'ai pensé, on en a parlé tout à l'heure, c'était sur l'emploi ou non du mot autrice ou écrivaine. J'avais beaucoup de mal parce que je trouvais ça très moche.
Ah bah voilà.
Et je me dis qu'il faut s'habituer.
Exactement. Julie
Neveu. C'est terrible, j'allais dire la même chose. Ah. Mais moi, on m'a interrogée il y a 6 mois sur France Culture et j'ai dit que je préférais être appelée auteure que autrice. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mon Dieu, quelle pleutre, quelle lâcheté. Et je me suis mis à dire, autrice, d'accord, je veux bien qu'on m'appelle autrice. Et maintenant, j'aime bien, je me suis habituée. Donc oui, c'était bien la preuve.
Et peut-être que les auteurs, on va les appeler des autries bientôt.
Ben, j'espère.
C'est ça, ce sera le grand hasard. Un immense merci à vous trois. Quelques conseils de lecture. Clémentine Mélois, Dehors la tempête chez Grasset. C'est un livre délicieux qui parle de l'expérience de la lecture. Nos manies, nos habitudes, nos souvenirs de lecteur. Le roman photo, Les 6 fonctions du langage, c'est au seuil. Formidablement kitsch et drôle. Et Radio Banane, à partir de 4 ans, à l'école des loisirs, l'histoire d'un singe qui s'appelle Aristote et qui présente une émission de radio en direct tous les jours, en direct de la jungle. C'est ardemment recommandé, je le disais. Je parle comme je suis, Julie Neveu, à lire chez Grasset. Ce que nos mots disent de nous, c'est une enquête linguistique très habile et généreuse sur les mots d'aujourd'hui, sur nos tics de langage et sur ce qu'ils révèlent de l'époque. Et puis Anagramme renversante, ou Le sens caché du monde. Si ce n'était pas impensif, je dirais aisément que ce bouquin est jubilatoire. Étienne Klein, Jacques Perry-Salkov, chez Flammarion. On lit aussi chez Flammarion La physique selon Étienne Klein. Bonne journée à tous les trois, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur France Inter, sous le soleil de Platon, ce sera tout l'été, entre 10h et 11h, et c'est tout de suite avec Charles Pépin. Bonjour Charles.
Bonjour.
Quel est le programme aujourd'hui?
Aujourd'hui, le programme, c'est je reçois le philosophe Fabrice Midal, mais qui est aussi directeur d'une école française de méditation, et c'est pourquoi, avec lui, nous parlerons des injonctions et de comment s'en libérer.
Et ce sera dans un instant.